invité, une playlist, un mercredi soir sur deux, 20h, 21h, Tour de Piste est sur Principe Actif.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ils sont quatre garçons dans la force de l'âge, se sont formés à Évreux en 2015, ont pour devise « All you need is rock and roll » et ont sorti leur premier album long format le 30 septembre de cette année. Il s'appelle « Unshaved » et contient 9 titres qui remettent au goût du jour le hard rock des années 60 et 70. Les Barbes Noires sont au micro de l'émission Tour de Piste sur les ondes de Principe Actif en direct et jusqu'à 21h et j'en suis très heureux. Eric, Olivier et Laurent, bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être à mes côtés pour cette émission. Je dis tous les trois parce que Jérôme, le batteur, est excusé pour ce soir. Donc Eric, tu es guitariste au sein du groupe. Olivier, chanteur et guitariste. Et Laurent, tu tiens la basse. Comment est partie l'idée de monter un groupe, Olivier ?
C'est parti. En vrai, ça remonte à fort longtemps. Enfin, la musique dans ce petit gang là de personnes. Et puis, donc ça remonte, il y a aux années du lycée, quoi. Donc 90 et tout. On a continué à faire un peu de musique les années passant. Et puis, on est devenu un peu plus vieux et on s'est dit que dans les années, c'était il y a peut-être 12 ans. Enfin, je sais plus, un truc comme ça. Il y a 12 ans maintenant, qu'avant que l'arthrose et ce genre de choses nous empêchent de bouger nos doigts, et ce serait peut-être bien de remonter un dernier truc avant de disparaître dans les fumées de l'univers, tu vois. Et au final, ah oui, je précise, je suis seul ici à boire de l'eau, donc je préfère le dire tout de suite. Et du coup, on a monté un groupe, notre dernier groupe, je sais pas si ce sera le dernier, pour l'instant c'est le dernier, qui s'est cimenté un peu comme ça autour de ce projet un peu, tu vois, de un peu macabre au final, puisque c'était ce qui nous mène vers le pied dans la tombe au final. Mais bon, bref, en tout cas, c'était pour faire quelque chose de joyeux, de la musique. Donc c'est il y a 12 ans, avec un format autour d'un petit groupe qui s'appelait Fight for Cookies. À ce moment-là,
que j'avais eu la chance de voir au gymnase de Saint-Sébastien de Bourg-Saint.
Exactement. Donc on a commencé un peu toujours autour d'Évreux, en jouant un peu partout où on pouvait, parce que le seul truc qui nous faisait plaisir, c'était jouer de la musique. Et c'est toujours le cas du reste. Et puis donc avec un format où on n'était pas encore tous les quatre. On avait un autre chanteur qui s'appelait Fabien avec nous, qui a préféré, pour des raisons personnelles, prendre un petit peu de distance avec le groupe. Hein. Donc on s'est retrouvés en 2000, je ne sais plus combien du coup, ça remonte à
2015,
longtemps.
2015, il est parti 2015. En 2015. Mais il s'appelle toujours Fabien d'ailleurs.
Il s'appelle toujours Fabien, tout à fait. Et s'il nous écoute, on le salue et on l'embrasse. Ainsi que Jérôme, qui j'espère est dans sa voiture en train de nous écouter sur 102.4.
On parlera avec Eric en cours d'émission. Je le vois, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose dans ce qu'a dit Olivier dans les tout débuts du groupe avant que ça s'appelle Barbe Noire?
Qu'on faisait beaucoup de basket.
Oui, on faisait beaucoup de basket. Le basket et le rock, on en parlera. Évreux, c'est des étendards. Enfin, c'est deux des étendards
c'est
de la
deux
ville.
Deux étendards de la ville. Si tu connais quelqu'un à Évreux qui fait pas du basket et du rock,
c'est qu'il n'est pas d'Évreux.
Et alors, on va parler de votre bagage musical. À chacun, vous avez puisé une partie de vos influences dans les années 60 et 70 avec des groupes comme Led Zepp, AC/DC, ZZ Top. Donc, on va faire un bref inventaire du bagage musical de chacun. Qu'est-ce que vous écoutez ? Là, je pose la question à Eric, qu'on n'a pas encore entendu.
Alors, moi, j'écoute pas mal de choses, très rock quand même, essentiellement rock. J'aime beaucoup aussi toute la musique années 60, 70, la soul également. Et puis, j'écoute aussi des trucs français, et puis je m'ouvre à pas mal de choses. Là, ma dernière découverte musicale en date, c'est Lucie Antunes, qu'on a programmé avec Fanny Corral à Live à Gizacom. Donc, tu vois, c'est assez éclectique, assez mais quand même... Très rock, malgré tout.
Laurent ?
Plein de trucs, en fait. Justement, contrairement à mes potes qui sont quand même plus fans de hard rock.
Je te laisse te rapprocher un peu du micro, Laurent.
Plus fan de hard rock, clairement. Moi, en fait, j'écoute vraiment énormément de choses. Et donc, ça va aller de trucs plus jazzy avec, à une époque, j'écoutais pas mal de Pastorius et tout ce genre de choses. Pas mal de funk, pas mal de rock, pop. Enfin, vraiment tout et n'importe quoi, en vrai. Quoi. Après, j'ai toujours une... Je suis très très fan des Floyd aussi, donc j'en écoute encore très souvent.
Olivier ?
Moi justement, pour me rafraîchir la mémoire, parce que ça commence à défaillir, je regarde un peu
sur ta plateforme de streaming,
dans Spotify, machin, et franchement je constate avec horreur qu'il n'y a que ces deux styles principaux, c'est du blues ou du hard rock, quoi, voilà. Donc c'est principalement ça, et depuis très longtemps, au final. Donc moi, c'était plutôt autour de Metallica, Slayer, Megadeth, Iron Maiden, tout ça, quand j'étais beaucoup plus jeune, donc petite adolescence, là. Puis après, ça s'est concrétisé par d'autres groupes, un peu peut-être moins vénères maintenant, mais en tout cas, voilà, toujours autour de la musique où il y a de la guitare qui tape fort dedans, et voilà, c'est ça qui me plaît. Et paradoxalement, le blues aussi, alors qu'il y a une sorte de musique aussi qui parle peut-être un peu plus directement à une autre partie de je sais pas, mon cerveau, et qui me touche au final. Et un dernier truc, je viens de voir aussi du flamenco, les gars, parce que c'est vrai que...
Ah, c'est un peu plus étonnant.
Alors là,
je suis pas sûr.
Guitare classique, au contraire.
Exactement.
Côté l'autre, tiens.
Et ouais, c'est vrai que c'est aussi une... bah, ça a rien à voir, mais pour le coup, enfin personnellement, ça me parle aussi. Voilà, donc j'ai pas essayé d'incorporer quoi que ce soit de ce style musical dans Barbe Noire, mais en tout cas, j'aime écouter ça.
Ça pourra venir à l'avenir. Vous êtes mis
peut-être
d'emblée d'accord sur la ligne qu'on va définir comme hard rock, heavy metal du groupe tous ensemble.
Ouais, alors heavy metal, moi je vais peut-être pas trop aller, enfin si on parle d'étiquette, ça me paraît
hard rock, ça
excessif
paraît plus,
mais ouais, plus ouais, effectivement, enfin aujourd'hui le metal, là, le heavy metal, je pense ça se rapproche d'une autre sonorité, d'autres on va dire un autre univers que le nôtre, qui est, ouais, si on veut l'appeler plus hard rock, ça me conviendrait mieux, mais bon, c'est pas, on joue sur les mots.
Heavy metal, t'es peut-être un peu plus éloigné des racines blues du hard rock, qui vient quand même en partie du blues.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais tout le monde se nourrit de tout le monde, c'est...
ça, et on va ouvrir la programmation, et c'est Eric qui va ouvrir le bal de la programmation avec un titre de AC/DC en live qui s'appelle Thunderstruck. Je te laisse, mon cher Eric, nous en dire quelques mots.
Alors, c'est la version live Thunderstruck du live, la tournée, je crois que ça doit être 91. Et... bah moi c'est ma découverte vraiment de la musique, et c'est le jour où j'ai écouté pour la première fois ce morceau, je m'en souviens encore, ça tellement ça m'a marqué en fait. Les premières notes de guitare de l'intro de Thunderstruck, ça a été une, pour moi c'était une découverte totale. J'ai arrêté Radio Nostalgie et je suis passé à AC/DC du jour au lendemain, quoi.
C'est le titre qui t'a donné envie de monter un groupe?
C'est le titre qui m'a donné un peu plus tard envie de faire de la guitare, en tout cas. C'est vraiment celui-ci. Et c'est cette version-là particulièrement que je trouve être la seule valable de ce morceau qui est sur l'album, que je trouve pas terrible. Les autres versions live n'arrivent pas à la cheville de celle-ci. Et voilà, donc c'est vraiment ma découverte, mon entrée dans le rock'n'roll, elle s'est faite avec ce morceau-là, très précisément.
Thunderstruck en live d'ACDC, c'était le premier choix de Eric, un de mes trois invités ce soir, puisque j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau les Barbes Noires. Votre groupe Fight for Cookies, dont Olivier parlait tout à l'heure, faisait essentiellement des reprises. À quel moment vous êtes mis sérieusement à travailler les compositions et l'écriture, Olivier?
Bah, ça nous a tout le temps titillé, en fait. Je pense, si je me rappelle bien, le plan, c'était voilà, on travaille sur des reprises pour se constituer un petit pool de morceaux qu'on pouvait jouer comme ça, et effectivement en concert. Et puis ça nous permettait aussi de nous solidifier autour d'un socle commun. Et en parallèle, on commençait déjà à incorporer nos petites compos par-ci par-là. L'idée étant d'en avoir, on va dire, un nombre minimal pour pouvoir justement revendiquer des scènes avec uniquement notre répertoire, le répertoire de ce qu'allait devenir du coup Barbe Noire plus tard. Donc on a toujours eu cette démarche quand même de composer, de faire nos petits morceaux, notre petite popote à nous, indépendamment du fait qu'on reprenait et qu'on continue d'ailleurs de reprendre de temps en temps quelques morceaux qui nous plaisent bien, par-ci, par-là. Mais effectivement, donc les reprises, c'est vachement formateur, parce que du coup ça nous a aidé à cimenter quelque chose. Et puis et ça nous a aussi permis de mettre au point notre petite c'est à nous, avec nos propres titres.
Mais il y a déjà, d'ailleurs, il y a des chansons qui sont sur l'album là, Unshaved, qui sont du temps de Fight for Cookies.
D'accord.
Give Me the Money, par exemple, je pense que ça doit être une des plus anciennes.
Elle a traversé les âges.
Elle a traversé.
J'imagine qu'elle a évolué entre la première fois où
vous
l'avez
transformée.
Non, on la joue aujourd'hui, tu vois, on l'a joué encore samedi dernier. Je pense que en 2015, on l'a joué à peu près de la même manière. Non.
Avec le même enthousiasme. Alors, quels sont les rôles de chacun au sein du collectif? Alors là, je parle de la composition, des arrangements ou de l'écriture des textes, puisque donc Olivier, on avait dit un chant guitare, Laurent basse et Eric guitare et Jérôme à la batterie. Laurent, tu peux aussi, quand vous composez, vous arrangez et vous écrivez, c'est toujours dans un esprit de groupe où il y a quand même, c'est plutôt à la charge d'un autre.
Il y a deux versions. Il y a des fois nos gratteux qui viennent avec un morceau déjà bien en tête, quoi. Tu vois, le truc est déjà bien construit, ils savent exactement ce qu'ils veulent comme ligne de basse, comme type de barrec. Tu vois, le batteur, tu vas faire. Et puis des fois, c'est plutôt mode bœuf, en fait. Genre, on fait tourner un riff.
Vous travaillez à l'instinct, un peu, quoi.
Il y a des morceaux qui sont venus comme ça, en fait. Enfin, c'est extra cool. Donc, on joue, on fait tourner pendant une heure. Et puis, on enregistre le truc. Et puis, on voit ce que ça donne. Et puis, on rejoue. Et on change un truc. On garde un machin. Des fois, on oublie d'enregistrer. Du coup, on s'en rappelle plus ensuite. Mais il y a un peu de... Alors après, très sincèrement, moi je viens pas avec une ligne de basse en disant les mecs, je veux que tu fasses ça avec ta gratte à tel moment. C'est pas trop mon truc. Je les laisse plutôt. C'est eux, en fait, ils connaissent bien mieux que moi, en fait, l'univers du hard rock. En vrai.
Il y a un patron dans le groupe ou pas du tout?
Non, il y a quatre patrons. En fait.
Il y a quatre patrons.
Donc autant dire qu'il y en a pas.
C'est très démocratique, Barbe Noire.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est une discussion qu'on avait eue entre nous là il y a pas longtemps, en fait. Et ça a des bons côtés, mais ça a des côtés lourds aussi, quoi. Bon, je pense que c'est lié aussi, enfin personnellement, mes copains vont me dire s'ils ont cette vision aussi, mais moi je pense que c'est dû au fait qu'on est avant tout des gens, enfin on se connaît depuis hyper longtemps, enfin notre relation elle est pas basée que sur la musique, et du coup je pense que ça a joué, tu vois, c'est pas comme si on avait constitué un groupe comme ça de mecs en faisant passer des auditions, ça colle pas, machin, donc avec plus une ambiance de travail, finalement, avec un collectif que tu montes comme ça. Non, là, c'est pas vraiment ça. Du coup, je pense que ça va au-delà de la simple, on va dire, fusion autour de Barbe Noire. Et donc, naturellement, t'imposes difficilement à tes amis un certain nombre de choses. C'est difficile de dire, tu fais ça, puis si ça te plaît pas, tu t'en vas. Enfin, voilà, c'est pas du tout la politique de la maison, quoi.
Puis c'est pas du tout un groupe, tu vois, il y a plein de groupes qui se montent parce qu'il y a un projet d'une personne. Et oui, donc, naturellement, c'est lui le patron, quoi. Là, c'était pas vraiment le cas. C'était un groupe de potes au départ
et de faire de la musique.
Voilà,
ensemble,
avec l'idée de faire de la musique. Et donc, ce qui nous importe, c'est de rester un groupe de potes aussi, quoi.
C'est les copains d'abord, Barbe Noire.
Ouais, on peut dire ça parce que je pense que c'est à l'origine du truc et ça continue d'alimenter la chaudière aussi.
Alors, quels sont les thèmes? On a parlé de la composition. Quels sont les thèmes qui inspirent l'écriture des textes?
Les concesses.
Alors,
qui veut répondre à cette question?
Bah, écoute, je vais m'y coller parce que sur les textes, en fait, c'est Olivier et moi souvent qui écrivons. Laurent aussi a écrit au début. Et Laurent, il avait des thèmes plus sociaux, tu vois, même sociétaux. Ça existe encore d'ailleurs sur les chansons. Il arrive qu'on aborde des thèmes, que ça soit Give Me the Money ou même plus récemment Join Us. C'est des thèmes plutôt sociaux. Et puis, dans la grande tradition du hard rock, on parle quand même, à mots à peine couverts, beaucoup de fesses et des filles. Et puis, ouais. voilà, on a des sujets plus personnels aussi qui peuvent arriver. Moi, j'ai écrit une chanson il y a quelques temps parce que c'était suite à une discussion avec mon fiston. Et puis, ça m'a donné une idée et puis ça a fait un texte.
Quelle est la devise du groupe? J'en ai un peu parlé en début d'émission.
All you need is rock and roll.
Ça veut dire quoi, all you need is rock and roll?
Et puis,
ça veut dire on branche, on arrive.
Ça, voilà.
Et ben voilà, tout ce dont t'as besoin, c'est du rock. C'est quand même... On chante ça sur scène depuis un petit moment maintenant quand même. Depuis 2015, depuis la création de Barbe Noire vraiment. C'est une des chansons au passage de Fight for Cookies à Barbe Noire, c'est une des chansons qu'on a écrites à peu près à ce moment-là et on la chante sur scène depuis longtemps maintenant.
je propose qu'on l'écoute. Barbe Noire. Et c'était le All You Need Is Rock and Roll du groupe hébraïcien Barbe Noire. Alors, vous explorez un style hard rock avec, avec Barbe Noire. Quel type de public se rend à vos concerts? Vous qui avez joué il n'y a pas très longtemps à Gravigny, à la Brasserie Sport.
Écoute, c'est marrant parce qu'on a, on a quelques fidèles qui viennent à tous les concerts. Quoi. Donc c'est rigolo d'avoir...
C'est super, c'est une marque de gratitude. Voilà.
Et donc c'est cool.
Assez touchante.
Ouais, tout à fait. Il y a un petit poule là qui vient nous voir dès qu'ils peuvent, donc c'est cool.
Et pas que nos femmes, hein.
Ouais, pas que nos femmes, nos enfants, les potes et tout.
Alors Olivier avait déclaré il y a quelques jours dans Heure Info, je prends ma guitare, je branche mon ampli, les copains arrivent et on joue. La volonté d'Olivier donc, de rester amateur, jouer simplement du rock pour le plaisir, c'est un point de vue qui est partagé par l'ensemble du groupe, ça, d'être des amateurs éclairés et de pas basculer ou de vouloir basculer dans le semi-professionnalisme ou dans le professionnalisme avec toutes les contraintes que ça implique.
Je crois qu'on est tous... raccord sur ce projet-là.
Ce sujet-là, oui.
Avec une volonté d'être quand même éclairé, quoi.
De l'intérieur.
Non, mais l'idée, c'est de faire. En fait, c'est ce qui est un peu, je crois, c'est un peu ce qu'on a dit la dernière fois. C'est essayer de faire les choses de la manière la plus propre possible, mais tout en restant amateur. C'est-à-dire que Olivier disait à juste titre, c'est ce qui passe un peu après tout le reste. Hein. On a des familles, on a des boulots. Et donc, on se voit le soir et on fait de la musique, soir, et on a des concerts quand on peut avoir des concerts. Quoi.
Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de rester amateur éclairé? Tiens, Laurent.
Ah, c'est une bonne question. J'en sais. En fait, en gros, c'est plus le fait qu'on a beaucoup de contraintes extérieures et que du coup, on peut pas être disponible en fait à plein temps pour faire de la zik. Sinon, je pense que si on pouvait être disponible à plein temps, on le ferait, quoi. Mais malheureusement, il faut payer des loyers, il faut remplir le frigo, et donc on est bien obligé d'avoir un job à côté, quoi. Mais en fait, c'est vrai que le truc important, c'est qu'on a quand même envie d'avoir quelque chose qui a un rendu relativement pro. On n'a pas envie de faire de la merde sur scène, quoi, typiquement. On n'a pas envie d'enchaîner de la merde, donc ça reste quelque chose d'important aux yeux, quoi.
L'inconvénient, selon moi, c'est que du coup, tout ce qu'on fait, ça prend un temps dingue. Démesurément dingue, hein. Cet album, on aurait pu sortir beaucoup plus tôt. Ça s'est pas fait parce que voilà, on a. Donc c'est long.
Sanitaire aussi.
Tout prend un temps fou. Par contre, l'avantage, c'est que on continue à faire ce qu'on aime. Enfin, je veux dire par là, on n'est pas en train de se dire qu'on dépend de cette activité pour vivre, tout simplement. Pour mettre des trucs dans la marmite. C'est pas ça qui nous fait vivre. Donc. On se sent libre aussi par rapport à cette activité et on la vit comme quelque chose qui est encore de l'ordre de la passion et pas comme un fardeau qu'on est obligé de se traîner parce que c'est notre boulot, parce qu'il faut que on gagne un peu d'argent, parce que voilà. Donc on a la liberté totale avec ce statut de gens qui n'en vivent pas. Donc on fait ce qu'on veut, on choisit ce qu'on veut, on va où on veut. L'inconvénient, c'est que on y va lentement. Voilà, parce que la journée, elle est faite comme, elle est faite de 8h, 10h, et sur ces 10h, on en consacre au moins 9 à notre boulot, ou à notre famille le reste du temps, qu'est-ce qui reste pour Barbe Noire? Peu de choses. Donc, voilà, c'est ça qui est long.
Alors, dans un esprit do it yourself, cher, à une idée indépendante du rock, on en parlait à l'instant, vous faites donc tout seul. Qui se charge de la promo, de l'administratif, de trouver des dates, d'envoyer les plans de scène aux salles, les besoins techniques, la basse besogne? Je sais pas pourquoi je sens que c'est Eric qui se prend cette besogne.
Bien vu, Lolo,
on va
dire la vérité, hein, on va pas tourner autour du pot. C'est Eric qui s'occupe de ces basses besognes, comme tu dis, qui a la joie de...
Je suis l'homme des basses œuvres.
Ouais, c'est vrai.
Et plutôt contraint ou...
Non, mais ça me fait plaisir. Je le ferais pas si j'avais pas envie de le faire. Mais du coup, je peux confirmer que c'est long, que c'est fastidieux, que c'est... Encore envoyer la fiche technique, ça, c'est que ça veut dire que t'as déjà une date, donc c'est cool.
Chercher les dates, c'est ce qui est plus pénible.
Chercher les dates, c'est plus compliqué. Mais moi je le fais parce que ça me fait plaisir de le faire en fait, et qu'il faut bien que quelqu'un s'y colle, donc si c'est moi, ça me pose pas vraiment de soucis.
Et alors, on parlait de rock indépendant, ça tombe bien, le troisième titre de la programmation de ce soir, c'est un choix de Laurent, c'est un groupe américain, new-yorkais plus précisément, ça s'appelle The Strokes, le titre s'appelle The Adults Are Talking, il est extrait d'un album qui s'appelle The New Abnormal, qui est sorti en 2020, très bel album d'ailleurs, des Strokes. Mon cher Laurent, je te laisse nous parler des new-yorkais.
Eh bien, je vais pas pouvoir t'en parler beaucoup parce qu'en fait, je connais pas grand-chose de leur histoire en vrai, quoi. Mais en fait, j'aime beaucoup ce titre en fait parce que je trouve qu'il mélange plein de choses et c'est hyper réussi. Ça te donne la patate. Il y a une forme de mélancolie. Il y a énormément de choses qui me. Enfin, je trouve que c'est un super morceau en fait.
troisième titre de la programmation de ce soir, c'était les Strokes via Adults Are Talking. C'était le premier choix de Laurent, un des trois barbes noires qui sont sur le plateau ce soir. Est-ce que dans un avenir plus ou moins proche, vous souhaiteriez être aidé pour la promotion, pour trouver des dates?
Oui.
Et on entendait oui, les Strokes,
absolument. 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 S'il y a des gens qui savent trouver des dates, à qui Barbe Noire plaît un peu, qu'ils ont envie de s'occuper un peu de tout ça, on peut discuter. Il n'y a aucun souci, au contraire.
Moi, je suis bien tout évidemment. À fait prêt à déléguer cette tâche.
Ouais, c'est la tâche, c'est très clair, c'est la tâche, et moi, pour l'avoir fait, la plus ingrate.
Mais bien
en
sûr.
Plus, des fois, c'est le désert.
Ouais.
Bah, c'est ça, c'est ça.
C'est du réseautage, c'est quand même forcément des lieux qui sont ouverts à.
mais ça dépend, tu vois.
Une petite communauté.
J'ai envoyé des mails là, quand on a fait la release party la semaine dernière chez Sport. D'ailleurs, merci Sport, c'était hyper
merci
cool.
Sport.
Merci Marie Curie parce qu'on a hyper bien bouffé.
Hyper bon.
Et puis on en reparlera, on verra sur ce concert.
Et en fait, j'avais envoyé des invitations par mail à tout un tas de gens. Et puis bah, dans le lot, il y en a un qui a répondu en disant. Mais ça tombe bien, je cherche des groupes. Est-ce que vous êtes dispo pour voilà. Donc voilà, ça des fois ça ça mord quoi. Donc c'est cool, c'est cool ça.
Après le cap d'un premier album, est-ce que c'est pas aussi ça de passer à vous aviez fait un petit EP avant qui était voilà qui une étape avant le disque long format. Le disque long format, c'est aussi avoir de la visibilité et de la crédibilité auprès des professionnels ou des semi-professionnels. Bah, est-ce que c'est aussi ça, un disque long format, un 9 titres?
Ça fait partie, je pense, moi, de mon point de vue, de la crédibilité d'un groupe. Alors, pas forcément d'ailleurs un long format. Hein.
On aurait pu faire, d'ailleurs, un
moment, on avait hésité, quand on enregistrait l'album et qu'on avait quand même très peu de temps pour le faire, on avait hésité à réduire et à faire moins de titres et à refaire un EP. Je pense que la crédibilité, ça vient en fait, ça marque une continuité dans l'activité, une continuité dans la créativité, en fait, montrer qu'on continue à composer, qu'on continue à faire des choses, même si toutes nos nouvelles chansons, on les teste généralement assez rapidement sur scène, mais tout le monde ne vient pas à nos concerts, et donc ça participe de ça, en fait. Il faut toujours avoir un petit peu d'actu, et sortir un album, bah, c'est une grosse actu pour nous, du coup.
L'actu de la décennie, presque.
Alors, toi, Eric,
rendez-vous dans 10 ans.
Et c'est encore toi que j'ai interrogé, Eric. T'arrives dans l'aventure en 2008-2009, hein, c'est bien ça?
Ouais, dans ces eaux-là.
Ça s'est passé comment, ton intégration dans cette formation aux allures de petite famille?
Eh ben, écoute,
est-ce qu'ils t'ont accepté tout de suite?
Ouais, ça s'est fait quand même hyper facilement. Moi, je me suis senti très à l'aise parce que ils se connaissaient tous depuis très longtemps et le fait qu'il me propose de venir, c'est que je m'étais fait un peu tester. Hein. J'avais senti quand même que j'avais été testé plusieurs fois.
Il y a un bizutage chez Barbe Noire.
Quand Olivier est venu me proposer le lendemain de mon audition, dont je savais pas que c'était une audition, je me suis dit, c'est cool. Et ils ont été vraiment. Je me suis senti tout de suite chez moi, quoi. Voilà, ils étaient tous très cool et je pense que c'était une décision, j'imagine, qui était un peu mûrie de leur part. Donc c'est. Mais je fais pas de basket, c'est peut-être mon. C'est peut-être mon défaut. Alors.
On va poursuivre la programmation musicale avec un titre cette fois-ci d'Olivier, puisque les artistes et les invités sont prescripteurs. Un grand classique des Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Je te laisse là encore, Olivier, nous en dire deux trois petits mots.
Oui, bah alors ce morceau, c'est simplement un hymne, effectivement, je pense, du hard rock pour le coup des années 90, avec les Guns N' Roses. Pour moi, c'est leur meilleur album là, sur lequel on va trouver ce morceau. Welcome to the Jungle, c'est le titre qui ouvre cet album. C'est une bombe du rock'n'roll avec Slash à la guitare, avec Axl Rose au chant, avec tout ce groove là, tout ce son, cette impression de waouh, on est où tout d'un coup? Et ben on est dans la jungle. Voilà, on est dans la jungle avec Guns N' Roses. On ne sait plus où donner de la tête. Il y a des trucs qui se passent partout. Il y a ce son, il y a cette manière de jouer, cette manière de chanter. On est ailleurs. Et moi, ça m'a très vite transporté. Voilà.
C'est aussi un morceau qu'Olivier envoyait dans sa voiture quand on partait en déplacement au basket le dimanche matin.
Eh oui.
Et donc, c'était l'hymne de démarrage. Et en fait, on envoyait ça systématiquement. C'était extra cool, quoi.
C'était la victoire.
Ça veut dire qu'on allait à Vernet, il est 8h45, faut qu'on aille à Pont-Audemer ou je sais pas où.
Tu l'as forcément entendu dans le fantôme.
Dieu m'a préservé de cette vie-là. Merci, merci.
On va écouter les Guns N' Roses. Welcome to the Jungle.
Yeah.
les Guns N' Roses, autrement appelé Guns, Welcome to the Jungle. C'était donc le choix d'Olivier, guitariste et chanteur au sein de Barbe Noire, qui sont à mes côtés dans l'émission Tour de Piste ce soir. Alors, est-ce qu'à Évreux ou aux alentours, là, il va falloir être bref parce qu'on a pris un peu de retard, d'autres groupes pratiquent un rock assez proche du vôtre, ou est-ce que c'est une de vos particularités sur le territoire? Je vous dis ça parce que, pour connaître un petit peu des groupes de hard rock dans le département de l'Orge, à part vous, je serais incapable d'en citer.
Justement, la réponse va être bref, je pense. Non. C'est une de vos... Si jamais vous êtes un groupe de... Manifestez-vous. Nous, on vous connaît pas. Viendez, on aimerait bien être toujours tout seul, mais bon.
Alors, vous êtes passé par les incubateurs, un dispositif proposé par le Tangram pour accompagner des groupes du département dans le développement de leur projet artistique. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté, Laurent, tiens, puisqu'on t'a pas beaucoup entendu ce soir?
Bah, c'était déjà en fait une bonne partie de l'enregistrement, enfin de l'enregistrement de l'album. C'était quand même extra cool, quoi. Et c'était une première pour moi, notamment, de faire un enregistrement au clic avec des conditions quand même plutôt top, avec Magic Joe.
Oui, on en parlera de Joseph Baudet, alias MC Agora, qui a participé à l'aventure. Non, et alors, dans quelles conditions avez-vous enregistré Unshaved?
Oh là là.
Bah, écoute, pour les projets incubateurs, on avait, nous, on s'était pas caché hein, dans le dossier de candidature que notre projet c'était d'enregistrer un album. Et donc on nous a dit OK. Et puis au bout de quelques jours, on nous a dit non, mais en fait, un album c'est quand même un peu, c'est peut-être un peu ambitieux. Voilà, on n'aura pas le temps. Donc on va faire un EP. Et Joseph nous a dit non, moi je me suis engagé sur un album, on va faire un album. Donc, ok, très bien, on fait un album et ça a été un peu speed, on peut dire.
Très live. Enfin, très...
Voilà.
Pas du tout de repos. Enfin, des prises souvent enregistrées en une fois, peut-être deux maximum.
Ouais, ça.
Pour se laisser un peu le choix. Avec Joseph qui nous a brutalisé, en fait. Non, mais c'est vrai, il nous a secoué, il nous a dit ouais, non, les gars, ça c'est de la merde, faites pas ça, faites ci, c'est mieux. Jouer comme ça quand on était un petit peu dans une. Mais il nous a fait ce choix-là, c'est mieux.
Bah, il s'est placé un peu dans le rôle du producteur, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment, il nous a coaché pendant l'enregistrement.
On y va. Ouais, il a été...
C'est comme si c'est lui qui. Bah, d'ailleurs, c'était lui qui tenait les cordons de la bourse, puisque c'était les crédits du cube qui y passaient. Donc. ça a été fait comme ça. Mais franchement, c'était une bonne expérience. C'était une bonne expérience. Et puis Joseph, il était vraiment de bons conseils.
Il vous a apporté tout son savoir-faire.
Ouais,
c'est vrai. Et on aurait pu se retrouver dans une situation stressante en se disant, oui, purée, faut qu'on se dépêche. Hein. Mais en fait, Joseph, il avait, je sais pas comment il se débrouillait, mais il arrivait à nous faire comprendre qu'il fallait pas qu'on mollisse, mais que ça va tranquille quand même. Voilà. Il nous mettait pas dans une situation où on était mal à l'aise, où on se sentait.
De mauvais stress.
Tout l'inverse. Donc, je sais pas comment il a réussi à faire ça, mais bravo, Joseph.
Et il vient d'un univers musical, Joseph, assez différent du vôtre. Du coup, ça a été un apport aussi au disque, ça, ce fait de croiser les univers.
Ouais, alors. Non, il fait du death metal quand même, Joseph, donc c'est pas si éloigné. Non, mais bien sûr, il avait une autre écoute, il avait une autre approche. C'est un musicien lui-même.
C'est un très bon musicien, en fait.
Il touche à tout, il fait plein de choses. Donc il a forcément, et effectivement, dans un univers qui est pas forcément le nôtre, ça a forcément compté, peut-être même plus au niveau du mix d'ailleurs et du mastering que sur l'enregistrement lui-même, mais c'était il a usé un petit peu de toutes les subtilités qu'il avait dans son épuisette là pour mener à bien notre enregistrement et le reste aussi, enfin parce qu'il nous a accompagné jusqu'à la phase de mastering en fait. Et c'était certes il avait une autre sensibilité, d'autres sons en tête, peut-être il connaissait pas forcément les repères que nous on avait au niveau des sons qu'on souhaitait entendre, des choses comme ça, il est très talentueux, il a vite compris dans quelle direction on allait.
Il est pas intervenu sur l'artistique.
Non, pas trop sur l'artistique, mais quand même, il a un petit peu façonné le son quand même. Il a ses trucs à lui, il a ses petits. Voilà, il a. Oui, c'est lui qui a un petit peu sculpté quand même le son.
Bon, les morceaux étaient quand même bien préparés.
Bien prêts, ouais. Pas rentré au studio, la fleur au fusil.
Non, on avait tout été déjà réglé.
Plus ou moins fait des enregistrements
des maquettes entre nous.
Dans le sous-sol d'Olivier, parce qu'on répète dans le sous-sol d'Olivier. Mais c'est vrai que c'était quand même assez carré. C'était, en tout cas, c'était réfléchi. Quoi.
Ouais. Sinon, on n'aurait fait que deux titres.
C'est sans doute aussi pour ça, parce que vous étiez prêt quand vous êtes rentré en studio, que vous avez pu sortir un disque 9 titres sur un dispositif d'accompagnement comme les incubateurs. On va écouter Barbe Noire, Love Me Tonight, sera le deuxième extrait de votre disque Unshaved. Est-ce que quelqu'un veut en dire brièvement un petit mot de ce titre?
Bah, c'est une chanson d'amour. Voilà, c'est une chanson vraiment d'amour un peu fort. Voilà, un amour un peu. Tu vois ce que je veux dire? Il est encore pas encore très tard. On va pas tout raconter, mais c'est un gros amour, si tu veux.
et c'était les Barbes Noires avec le titre Love Me Tonight. À Évreux, depuis très longtemps, le basket et le rock sont un peu les deux étendards de la ville. Hein. C'est la manière dont on parle d'Évreux en bien. Alors, il y en a d'autres quand même. Moi-même, je suis un peu reproduit de l'LM Basket et du regretté festival de rock dans tous ses états et de l'abordage. Donc, j'en sais quelque chose. Est-ce que vous avez l'impression d'être des produits très ébroïciens en étant basketteur et rockeur? Vous me faites
Oui, voilà. Tout à fait.
Ouais, juste en fait, on kiffe ça. En fait, c'est juste aussi simple que ça. Quoi.
Exactement.
Donc, toujours pas réussi à arrêter les deux en fait.
Alors, c'est la ville où Jimi Hendrix. Ça, c'est la deuxième question un peu idiote de la soirée. C'est la ville où Jimi Hendrix a fait son premier concert officiel sous son nom. C'était au Novelty, 13 octobre 66. C'est pas faute de le répéter. Le guitariste américain avait anticipé les futurs langages du rock, comme le hard rock que vous pratiquez. Vous y pensez quand vous jouez à la maison? Vous vous dites: ah, on joue à Évreux, c'est la ville où Jimi Hendrix a fait son premier concert officiel au monde.
Non,
c'est normal.
Moi, si on pouvait faire un concert au Novelty, là, voilà, carrément.
Mais je pensais à ça, en fait.
Moi, j'y pense quand je passe devant cette.
Ma question, elle est plutôt là. Faire un concert au Novelty, alors je sais pas dans quelle mesure c'est possible, mais que le Novelty réouvre avec toute l'histoire qu'il a. Il y a Jimi Hendrix, il y a eu plein de grands artistes.
Je n'ai pas joué au cinéma du Victor Hugo.
Qui sont passés par là. Alors, le destin d'un groupe n'est pas forcément de jouer dans les stades. Vous êtes produit dans un gymnase, est-ce que c'est une expérience que vous souhaiteriez réitérer, jouer dans un gymnase à Évreux? Et si oui, lequel?
Bouclons la boucle. Mais tout à fait. Un gymnase dans lequel on jouerait également au basket, par exemple.
Par exemple.
Oui, alors bien sûr, ça serait un de nos rêves, ça. S'installer dans la salle Jean Fourré un soir de match de l'ALM à la mi-temps et balancer un petit morceau de Barbe Noire comme ça, ce serait vraiment chouette.
Et bah, écoute,
je sais pas si c'est possible.
Ça aurait un petit côté mi-temps du Super Bowl.
Je trouve ça super. Alors, l'album n'a pas de version physique, hein, c'est-à-dire pas de version disque compact ou vinyle. Pourtant, les artistes auxquels vous faites parfois référence viennent de l'époque où la musique s'écoutait en vinyle. Est-ce qu'il y a des fantasmes de sortie en vinyle chez certains d'entre vous?
Oui, Eric 33 aime le vinyle.
Tours, un autre format.
Écoute, oui. Moi, je nourris ce fantasme. Je pense que c'est le seul format qui se vend à peu près aujourd'hui. Et c'est un format chouette en sortie de concert à vendre. C'est un vrai bel objet. Et puis moi, mon petit fantasme, ça serait de sortir juste un EP, deux titres en 45 tours. Voilà, deux nouveaux titres que personne n'a jamais entendus, qu'on n'aurait jamais joué sur scène et qu'on sortirait en 45 tours. Voilà.
On peut dire que ça pourrait faire partie des projets à court terme ou à moyen terme?
On peut se le dire.
Moi, j'espère.
On a eu des demandes aussi, en fait, en vrai.
Affaire à suivre, hein. Et on va écouter le sixième titre de cette émission, puisqu'on a raboté AC/DC parce qu'on est très en retard. C'est Bootsy Collins avec Fantasma. Le titre s'appelle Hip Hop Lollipop, qui est sorti, je crois, uniquement en version single. Donc, du coup, on parlait des 45 tours. Laurent, est-ce que tu as envie de nous en parler ou comme pour les Strokes, on l'écoute directement?
Bootsy Collins, pour le coup, c'est ce qui m'a donné envie de travailler la basse, en fait. Enfin, tout l'univers funk, pour le coup, à l'époque, en fait, j'avais envie de se taper dans tous les sens. J'étais complètement nul à ce jeu-là, mais n'empêche que c'était extra cool, quoi. Et puis, en fait, t'écoutes ce genre de musique, en fait, t'as les épaules qui bougent, tout. Enfin, ça met de la bonne humeur, en fait. Ça te met de bonne humeur le matin, en fait.
Puis votre rock, c'est ça aussi, c'est boire un coup, taper des pieds et se déhancher.
Enfin, c'est un mec qui a joué avec tellement de monde. Enfin, c'est incroyable, en fait. Il a une carrière pharaonique. Et sur ce titre-là, il y a Victor Wooten, en fait, qui joue avec à la basse, qui est un bassiste monstrueux. Donc, ça me met de bonne humeur le matin, ça. Welcome to the club. So I hear your name is Phantasma, and he wants to be a funketeer. Why don't you make your way to the stage? Toby, what's the password? Oh, with the band. Oh, that's right. How you doing, buddy? How much you got? How much you gonna get? Funketeer, let's funk with this. How much you got? How much you gonna get? Funketeer, let's funk with this. How much you got? How much you gonna get? Change, strange, this, that, oh, right, because it is the bomb like that, say.
Et c'était Bootsy Collins, musicien virtuose. Deuxième choix donc de Laurent de Barbe Noire, notre invité. Le titre, je vais vous le redonner. C'est Hip Hop Lollipop avec en featuring Fantasma. On va parler du visuel de l'album qui a été signé par l'illustrateur Maël Dupuis alias Méto. Comment s'est fait le choix de travailler avec avec Méto? Lequel de vous trois veut répondre? C'est un peu par hasard ou...
Non, pas du tout. Alors moi, Maël, d'abord, on est copains.
Et puis, on salue d'ailleurs si vous écoutez
Maël. Oui, bisous Maël. J'étais tombé sur une de ses illustrations dans le style carte à gratter, dans le fanzine de Vénus, de l'assaut Vénus in Fuzz. C'était un portrait de Lou Reed et je l'avais trouvé super ce portrait, et donc je suis arrivé un soir avec le visuel sur mon téléphone et j'ai dit au mec, bah écoutez, voilà, moi je vous propose qu'on fasse un truc comme ça pour la pochette de l'album. Donc ils ont dit ok, et on s'est fait une petite soirée séance photographie, alors là vraiment 100% indé aussi, hein. Ouais, dans le local de répète, on a testé des éclairages et tout, et puis on s'est dit tiens, l'éclairage que d'un côté ça peut être pas mal. Et après, on a filé nos photos à Maël, et lui, à partir de ça, il a créé le visuel. Il a fait pas mal de... On a eu plusieurs essais, chacun, en fait, il avait fait tous nos portraits. Et on a validé un des projets, et puis... Enfin, voilà. Donc, merci Maël.
Ouais. Alors vous... Et je voulais juste rajouter le lot. Merci aussi Marc Fouenard qui a utilisé ce matériau fourni par Maël pour concocter finalement la pochette, on va dire, enfin l'image de l'album. Donc c'est Marc Fonner qui est aussi un dessinateur qui est du coin, hein, c'est 100% ébrouissien, tout ça, qu'on connaît depuis longtemps. C'est lui qui est à l'origine du logo Barbe Noire, etc., d'il y a quelques années, donc avec qui on a finalisé finalement la pochette, enfin la pochette, j'appelle ça comme ça, l'image qui accompagne l'album.
Voilà. Plus qu'ébrouissien, c'est Bamorsantin.
Ah oui, c'est Bamorsantin.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes un groupe de Saint-Sébastien de Morsantin.
Ouais, ils sont un groupe du 2780.
Exactement, ouais, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai.
Alors, vous avez fait votre release party, comme on dit, il y a quelques jours à la Brasserie Sport, à Gravigny, avec en première partie les Bucaro Banzai. Ça s'est passé comment?
C'était cool.
Super, franchement. Personnellement, je dois confesser que c'était la première fois que j'allais, que je me rendais chez Sport. Hein. J'en avais souvent entendu parler, mais j'avais pas eu l'occasion d'y aller. Et ben, j'ai pas été déçu du voyage, comme on dit. Franchement, super soirée, super accueil. C'était blindé, c'était chouette. L'endroit est vraiment original et finalement, ça s'y prête quand même.
Le projet est vraiment sympa, en vrai.
Ouais, le projet de sport, c'est sympa.
Ouais, ouais, il y a une belle
faire
programmation.
Jouer des groupes, faire vivre culturellement le jeu.
C'est des conditions de concert qui sont bonnes, l'ambiance
ouais.
est chouette.
Puis c'est un sport qui est moins dangereux que les autres déjà, donc c'est pas mal.
Oh, bien joué, bien joué.
Sur le long terme.
Très bien.
Alors, où est-ce qu'on peut trouver ça? On n'en a pas parlé encore, on a parlé d'une éventuelle sortie de 45 tours, ce serait génial, d'inédit. Où est-ce, sur quelle adresse web on peut trouver votre album et l'écouter gratuitement ou le télécharger?
Alors, on peut le... Voilà, aujourd'hui, on l'a sorti sur les plus grandes plateformes numériques du monde. Donc, Spotify, Deezer, YouTube...
Apple Music,
Amazon Music. YouTube, j'ai déjà dit, je crois.
Bandcamp.
Ouais, voilà.
Bandcamp, hein, également. C'est accessible, ton abonnement payant, je crois.
Tout à fait.
Et puis, c'est gratuit, tu peux même le télécharger gratuitement.
Voilà. Tout à fait, notre musique est gratuite.
Et puis sur barbenoir.fr aussi.
Tout à fait, on peut l'écouter et télécharger.
Et vous avez une page Facebook aussi.
Oui, ouais, exactement.
Sur laquelle il y a toutes les
Barbenoir The Band.
Et un jour, on aura un Insta, mais en fait, on est trop vieux. Quoi.
Ou un compte TikTok.
Ouais,
on va demander à nos enfants de...
Et on fera des lives sur Twitch et tout.
Yeah.
Un grand merci à tous les trois, c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de l'émission Tour de Piste.
Bah, merci.
Ça fait longtemps qu'on devait faire cette émission, je vous souhaite une bonne continuation. On sera pas sans se revoir. Merci à nos auditrices et nos auditeurs pour leur écoute. On se quitte avec un dernier extrait de votre album Unshaved, ça s'appelle Revelation. Yeah. Bonne soirée à tous.
Bonne soirée tout le monde,
et
merci à vous, merci Lolo.
À dans
merci.
15 jours, au revoir.